Bonjour à toutes et à tous. Il y a deux semaines, donc, nous avons commencé notre programme « Lire ensemble le Nouveau Testament » par la lecture de l'Évangile de Luc. Et l'une des choses qui m'a frappé lors de cette relecture, c'est la fréquence à laquelle Jésus priait. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus, aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie, mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. On notera le contraste entre les temps où il est entouré d'une foule nombreuse qui le presse, qui formule des requêtes de guérison notamment, et les temps de prière qu'il prend. Si je me souviens de mes cours de grammaire à l'école primaire, ben l'imparfait, ça traduit une habitude, quelque chose qui se déroulait régulièrement. Lui se retirait habituellement dans des lieux déserts pour prier. Pas seulement des occasions particulières, mais très régulièrement. Et malgré toutes les sollicitations dont il faisait l'objet, il se ménageait des temps réguliers et suffisamment longs. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler de la prière. Nous commencerons par le Notre Père qui est relaté dans Luc. Vous verrez que la formulation dans l'évangile de Luc est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de réciter par cœur, qui est celle de l'évangile de Matthieu. Ensuite, je vous proposerai de regarder comment Jésus est un exemple pour nous dans la façon dont il prie. Et enfin, je reverrai avec vous quelques recommandations de Jésus à propos de la prière. Commençons donc par Luc au chapitre 11. Un jour, Jésus priait dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnerons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Prier signifie souvent formuler une requête. Je vous prie de vous asseoir, je vous prie d'entrer, enfin. Et il est donc logique que cette prière commence par préciser à qui on s'adresse. Et Jésus nous invite à nous adresser à celui qu'il appelle notre Père. On pourrait commencer une prière en disant « Dieu, Seigneur ». Jésus, lui, appelle celui à qui s'adresse la prière, notre Père. Ce qui évoque de suite, au moins pour la plupart d'entre nous, malheureusement pas pour tout le monde, mais une relation intime et empreinte d'amour. Et non pas ce terme Dieu qui, personnellement, moi, me paraît plus impressionnant et souligne une différence de nature entre Dieu et l'homme, alors que là, notre Père, c'est quelqu'un de beaucoup plus proche que nous sommes invités à prier. Dieu apparaît ici clairement comme une personne et pas simplement comme une force ou une réalité impersonnelle. Celui que nous prions est celui qui nous a créés et qui prend soin de nous. Maintenant que nous avons précisé à qui nous nous adressons, que demander ? Alors j'ai eu la curiosité d'interroger Internet et une intelligence artificielle pour savoir s'il y avait eu des études de fait sur les sujets de prière. Les réponses ne sont pas très étonnantes finalement. Ce qui arrive en tête, c'est les demandes de guérison et les demandes de protection. Oui, on comprend assez bien. Ensuite, des demandes de bien-être personnel, émotionnel. On demande la paix intérieure, la force pour traverser une épreuve, une aide pour la décision. Quand il s'agit de prier pour la paix mondiale, ou la justice sociale, là déjà c'est moins fréquent, mais c'est mentionné. J'arrête là la liste, pour ça pourrait être très long. Mais les sujets les plus fréquents, finalement, ont trait à notre personne ou à notre entourage proche. Les enquêtes montrent que dans les traditions chrétiennes, les requêtes sont un peu différentes, un peu. Hein. On y trouve des demandes de pardon, la recherche de la volonté de Dieu ou la gratitude. Alors tous ces sujets que j'ai listés en premier sont légitimes et nous-mêmes, nous formulons souvent de telles promesses. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la tendance naturelle, c'est de concevoir la prière un peu comme une liste de requêtes à présenter à Dieu. Je ne dis pas que c'est comme la liste des courses, mais enfin bon, assez vite, on est tenté de dire « Seigneur, si tu pouvais, ceci, cela, etc. » Jésus, lui, nous recommande de regarder premièrement à Dieu avant de présenter les requêtes personnelles. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première requête consiste à demander que le nom de Dieu soit respecté. Vous savez que dans la Bible, le nom, c'est ce qui représente la personne entière. Sur la terre, dans le ciel, et je pense pouvoir ajouter sans trahir la parole, mais aussi dans mon cœur. Jésus nous invite à mettre, comme on dit, le focus d'abord sur Dieu. Notre tour viendra ensuite. Tourner les regards vers Dieu nous aide à nous rappeler que nous ne sommes que des créatures pécheresses alors que lui, il est saint. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette image-là, d'imaginer toutes les prières que Dieu reçoit. Ça doit être pire qu'un standard téléphonique, je veux dire. Et nous prions comme si nous étions seuls. On s'imagine seul sur la ligne alors que Dieu reçoit plein de prières et on étonne de ne pas être exaucé. Vous imaginez que toutes les prières sont cohérentes ? Nous ne sommes qu'une créature parmi tant d'autres alors qu'il est le seul Dieu. Nous sommes faibles et inconstants alors que lui est tout-puissant et qu'il n'y a en lui pas l'ombre d'un changement ou d'une variation, nous dit l'Écriture. C'est une évidence, mais souvenons-nous que Dieu n'est pas un homme et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et cela nous aidera à comprendre et à accepter que Dieu n'est pas notre obligé et qu'un non-exaucement est parfois une grande bénédiction. Il vous est jamais arrivé de dire « Heureusement que le Seigneur n'a pas répondu à cette prière ». Ça aussi, ça fait partie de la bénédiction de Dieu qui reste souverain en toutes circonstances. Et une fois que nous sommes bien pénétrés de cela, que nous en sommes bien convaincus, alors nous pouvons passer aux requêtes personnelles. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ce pain quotidien résume et symbolise tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. On n'a pas besoin que de pain pour vivre, mais on comprend l'idée. Et ce n'est pas la liste de tout ce que nous aimerions recevoir, c'est juste le pain quotidien, le nécessaire. Dans Matthieu 6, au verset 8, Jésus dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » On ne prie pas pour rappeler à Dieu quelque chose qu'il aurait oublié. On n'a pas besoin de lui rafraîchir la mémoire. Nous, peut-être, on a besoin de prier pour se rappeler. Quand on fait la liste des sujets de prière, on se dit « Ah oui, c'est vrai, je me suis engagé à prier pour un tel et un tel. » Dieu, lui, sait parfaitement de quoi nous avons besoin. Ça peut expliquer la simplicité de la formule. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, on n'a pas besoin de dire plus. Mais il y a une condition aussi pour être exaucé. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. On voit cette réciprocité dans le pardon, et ça m'a rappelé la parabole du serviteur impitoyable. Vous savez, cette personne qui avait une dette très importante et qui avait supplié son débiteur de lui remettre cette dette, ce qu'il avait obtenu, mais lui-même avait un ami qui lui devait quelque chose d'insignifiant et il ne voulait pas lui remettre cette dette minime. Et bien, la conclusion, c'est que pour lui, eh bien, le pardon, la remise de cette dette importante qu'il avait gagnée, eh bien, il l'a perdue, il a dû honorer cette dette jusqu'au bout. Sachons être reconnaissants si nous voulons être exaucés. Et non seulement Jésus nous enjoint de pardonner à nos frères, mais il va même nous dire dans un autre passage de Luc, « À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez ceux qui vous maltraitent. » Dans notre lecture de la Bible, on doit répondre à trois questions. Qu'est-ce que je dois changer dans mon attitude? Eh bien écoutez, si là vous n'êtes pas interpellé, c'est que vous êtes bien meilleur que moi. Enfin, Jésus termine ainsi son modèle de prière. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parole vivante traduit ainsi, garde-nous de céder à la tentation. En effet, il est quand même utile de rappeler que l'épître de Jacques, par exemple, nous dit que Dieu ne tente personne. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais on peut prier Dieu de ne pas y céder à cette tentation. Nous sachant faibles, nous sommes invités à demander à Dieu de nous éviter de succomber aux tentations que nous pouvons rencontrer. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, qui est de voir comment la vie de prière de Jésus confirme son enseignement aux disciples. Je commencerai par deux temps forts de la vie de Jésus, son baptême et sa transfiguration. Jésus a prié lors de son baptême. Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » C'est un symbole fort de voir que le ministère terrestre de Jésus commence par un acte d'obéissance, son baptême, alors que pour nous, un baptême, c'est une conversion, c'est montrer qu'on change de vie. Lui, il n'a pas besoin de changer, il n'a pas commis de péché. Mais sa prière fait que tout de suite, il montre d'abord l'importance de la prière, puisqu'il commence son ministère par la prière, et c'est aussi l'occasion d'une révélation. Qui il est vraiment. Et cette prière, elle est exaucée, puisque Dieu prend la parole, c'est pas si souvent que Dieu prend la parole, ici pour dire, tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. En demandant le baptême et en priant, Jésus s'est identifié aux hommes et il nous montre la place primordiale qu'il accorde à la prière, qui nous place dans la présence de Dieu et exprime en même temps notre caractère d'enfant de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, la parole nous dit aussi que nous sommes ses enfants. Jésus a également prié juste avant sa transfiguration. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Et un peu plus loin dans le texte, une fois encore, une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Là encore, il y a une image très forte de la prière qui transforme. Alors là, c'est l'apparence de Jésus qui est transformée, mais la prière transforme aussi notre être. Et aux yeux des disciples qui sont présents, Pierre, Jacques et Jean, elles confirment la véritable identité de Jésus. Il n'avait pas assisté au baptême, il n'avait pas encore été choisi pour le suivre à ce moment-là. La prière apparaît donc ici comme un temps où Dieu se révèle et nous transforme. Cette transformation, elle a eu lieu pendant que Jésus priait. Voyons à présent 3 autres circonstances où Jésus a prié avant de prendre une décision importante. Il a prié toute une nuit de prière avant de choisir les 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. voyez bien l'importance du choix des disciples, le rôle qu'ils vont jouer dans la diffusion de la parole de Dieu, dans la construction de l'Église primitive et tout. Eh bien, ce choix, lui qui est Dieu, lui qui sait tout, lui qui est tout puissant, qui est omniscient, eh bien, il prend une nuit de prière avant de faire son choix. Il va aussi prier avant un entretien qu'il aura avec les disciples pour révéler qui il est vraiment. Je ne vais pas souligner tous les enseignements qu'on peut tirer de ces versets. Par exemple, ici, Jésus priait à l'écart. Vous avez vu qu'il se retire dans le désert, il monte sur la montagne. Bon, on voit qu'il y a des circonstances qui sont plus favorables que d'autres à la prière. Ici, un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea, « Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. » « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Alors, qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit, « Le Messie, envoyé par Dieu. » Et puis cette parole étonnante de la part de Jésus, « Ne le dites à personne. » Là aussi, c'est un enseignement important pour les disciples, de savoir qui ils suivent. Eh bien, Jésus a pris un temps de prière pour préparer aussi cette révélation. On a déjà lu le texte qu'on appelle le Notre Père, mais on voit bien qu'un jour, Jésus priait en un certain lieu, et quand il a fini, l'un de ses disciples demanda, « Apprends-nous à prier. » On notera au passage, comme Jean l'a appris à ses disciples, Jean aussi apprenait les disciples à prier. On voit ici une mise en pratique de ce qu'il avait recommandé. Lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite. Avant de prendre une décision ou une initiative importante, Jésus prie pour être en communion d'idées avec le Père. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à ça, je me dis que c'est vraiment toute la complexité de la Trinité. Dieu est seul, enfin, est unique, je veux dire, et en même temps, le Fils veille à être toujours en communion avec le Père. Cette communion du Dé, c'est un exemple à suivre pour nous. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai souvent tendance à demander à Dieu de bénir mes projets. On devrait peut-être d'abord lui demander si ces projets que nous formulons sont bien sa volonté. Si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances que Dieu ne nous exauce pas. Et quelquefois, je l'ai dit, c'est une bénédiction. Un autre passage où nous voyons Jésus prier, quand les 72 disciples revinrent, vous savez, il les a envoyés en mission, et ils étaient pleins de joie, ils disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Oui, leur répond Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous imaginez cette vision? Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Quand Jésus ressent cette joie intense de voir le mal qui tombe, il tressaille de joie et il parle au Père. Il partage cette joie avec le Père. La prière, ce n'est pas seulement une demande, prière de faire ceci ou cela, c'est aussi l'occasion de se réjouir et de dire notre gratitude à Dieu. N'oublions pas de dire notre reconnaissance. Moi, je dois me reprendre sans arrêt. Je suis très vite parti dans la sollicitation et me dire, du calme, monsieur. Ce n'est pas dans cet ordre-là qu'on présente les prières. Non seulement c'est juste de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, mais aussi parce que ce souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, c'est une source d'encouragement. Ce qu'il a fait, il peut le refaire d'une façon ou d'une autre. Comme nous le faisons aussi régulièrement dans nos réunions de prière, il est arrivé à Jésus d'intercéder pour des disciples. Avant le reniement de Pierre. Jésus aura cet entretien. Simon, Simon, il n'a pas encore le nom de Pierre à ce moment-là. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus savait ce qu'allait connaître Pierre. Il savait qu'il allait chuter. Il savait qu'il allait revenir à lui. Mais il a prié, il a intercédé. Nous voyons ici l'amour de Jésus pour Pierre. Il le met en garde. Et vous vous souvenez de la réaction de Pierre ? Moi ? Mais jamais. Jamais ça m'arrivera. Et quelques heures plus tard, trois fois de suite, comme Jésus l'a annoncé, il va le renier. Et je ne dis pas ça pour le mépriser, parce que qu'est-ce que nous aurions fait à sa place ? Garde-nous de céder à la tentation. Voilà une phrase toute simple, facile à mémoriser, mais que nous pourrions adresser régulièrement à Dieu. Je le reformule à ma façon, ne me permets pas d'être trop sûr de moi. Des épreuves, Jésus aussi en a connues, et ça a été pour lui aussi une occasion de prier. Au Mont des Oliviers, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » À propos de Jésus, d'abord quelques remarques. Il a osé formuler sa demande, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Et on comprend pourquoi, hein, il a essayé d'échapper à ça. Mais tout de suite après, « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Pour moi-même, j'en tire l'enseignement que je ne dois pas avoir peur de formuler des demandes à Dieu, mais toujours en lui disant, mais si c'est ta volonté seulement. Dieu n'a pas accédé à la demande de Jésus. Il ne lui a pas évité le calvaire. Mais il n'est pas non plus resté sans rien faire. Nous avons lu qu'il lui a envoyé un ange pour le réconforter. L'absence d'exaucement, ce n'est pas un abandon. La prière ne consiste pas à dire « Notre Père, fais ce que je veux ». On devrait plutôt dire « Notre Père, donne-moi la force de faire ce que tu veux ». Dieu peut aimer parfaitement et pourtant ne pas éviter certaines épreuves. L'épreuve n'est pas la marque d'un abandon de Dieu, on le voit ici avec son Fils. Dieu n'est pas resté indifférent ni sans agir, mais s'il avait accédé à la demande de Jésus, bien nous serions encore sous le poids de nos fautes et la condamnation qui en résulte. Je le redis, mais ce non-exaucement est la plus grande bénédiction que Dieu pouvait nous accorder, notre salut. Lorsque nous prions, nous avons tendance à ne voir les choses que de notre point de vue. Du point de vue de Jésus, il souhaitait pouvoir échapper au supplice qu'il attendait. Et je l'ai dit, c'est un supplice physique, bien sûr, mais surtout spirituel. Être considéré comme le péché. Pour Jésus, c'est la pire des horreurs. Et pourtant, Dieu ne lui a pas évité cette épreuve, car il avait en vue notre délivrance. Dieu n'a pas épargné Jésus pour nous épargner. Enfin, le texte ne cache pas que Jésus a dû livrer un combat excessivement éprouvant pour obéir à son Père. Parole vivante traduit ainsi le verset 44. L'angoisse le saisit, il commença à lutter avec la mort, sa prière se fit de plus en plus pressante, il jeta dans ce combat toutes les forces de son être, sa sueur coulait jusque par terre, pareille à des gouttes de sang. Cela nous montre à quel point Jésus nous a aimés pour affronter cette épreuve. Et on se dit, si on doit lutter de cette façon-là dans la prière, il y a de quoi avoir peur. Mais Paul dira, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. En sortir, ça ne veut pas dire contourner et éviter l'obstacle. C'est réussir à le traverser et à le franchir. Ça ne sera pas facile et sans souffrance, mais Dieu sera à nos côtés. À propos des disciples à présent, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus avait prévenu. Et bien qu'avertis, les disciples n'ont pas su veiller et prier. Et on voit là toutes les limites de notre humanité et notre fragilité. Pourtant, je suis convaincu que les disciples n'étaient pas indifférents. Pas non plus totalement conscients de ce qui allait se passer. Bon, ça leur a été annoncé plusieurs fois, mais comment imaginer ça? Luc nous dit qu'ils étaient accablés de tristesse et qu'ils se sont endormis. Je ne comprends pas tout là-dedans. Je ne sais pas vous, mais triste, moi personnellement, ça ne m'endort pas, mais bon. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que Jésus a affronté seul cet instant. Et je crois que ça peut aussi nous pousser à être encore plus reconnaissants. Et après le jardin de Gethsémané, l'épreuve n'est pas terminée, il y a la crucifixion. Et il va prononcer ces paroles incroyables. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus nous a recommandé de pardonner, comme nous avons été pardonnés. Mais lui, il n'avait rien à se faire pardonner. Ce n'est pas une question de réciprocité. Il donne l'exemple suprême du pardon en demandant à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Je ne sais pas comment vous comprenez, vous, cette phrase, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils voient quand même bien qu'ils sont en train de mettre quelqu'un à mort. Moi, je crois que ça signifie, ils ne savent pas qui ils sont en train de mettre à mort. Ils n'ont pas compris qui est Jésus. Et quand on voit Jésus sur la croix qui dit « pardonne-leur », ça me rappelle cette parole qu'on trouve dans la première épître de Jean qui dit « Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Là, Jésus se révèle comme un avocat qui défend ce que moi j'appellerais une cause perdue. Ses bourreaux. Une telle compassion n'est pas à notre portée sans l'aide de Dieu. Je ne voudrais pas faire trop long, mais on a des exemples de personnes qui ont pardonné à leur bourreau. Nelson Mandela, 27 ans de prison. Et il passe au-dessus pour favoriser la réconciliation nationale. Corrie ten Boom, qui pardonne un gardien du camp de Ravensbrück. où elle dit qu'elle a ressenti une résistance intérieure à pardonner. Ça a été un combat, mais elle a pardonné. Ce pardon, c'est ce qui permet la résurrection, et Jésus nous en donne un exemple, et pas à n'importe quel moment, sur la croix. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enfin, la dernière fois, je crois, où l'on voit Jésus prier dans l'évangile de Luc, c'est au moment de son agonie. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et en disant ces paroles, il expira. Ici, la prière, c'est un dialogue, c'est pas une demande. Après toutes les souffrances endurées, on peut se dire, eh bien, il est enfin délivré. Il parle d'une voix forte. Vous imaginez dans quel état physique il est? Après toutes les flagellations, on sait que le crucifié, il meurt étouffé. Parler fort quand on a une voix, quand on est dans cette situation-là, Dieu lui permet de parler fort pour être entendu. Je remets mon esprit entre tes mains. Ça m'a rappelé cette parole dans l'évangile de Jean. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même, cette vie. Je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus ne meurt pas désespéré. Il place sa confiance en Dieu. Cette épreuve terrible qu'il traverse n'a pas rompu le lien qui unit le Père et le Fils. Et je me dis qu'il y a des circonstances, peut-être en avez-vous traversé, où nous sommes appelés à nous abandonner à Dieu, en disant « Écoute là Seigneur, moi je ne peux plus, c'est au-dessus de mes forces, que ta volonté soit faite. » Cette parole, elle montre notre espérance en sa bonté, et en son amour. Et on a beaucoup prêché sur l'épître aux Hébreux ces derniers temps, j'en ai retenu cette idée que Jésus est le grand prêtre par excellence, celui qui présente les sacrifices pour nous, qui parle en notre faveur, et on a vu dans tous les textes de Luc que nous avons lus comment il a mis tout cela en pratique. En résumé, Jésus nous enseigne à d'abord regarder à Dieu avant de présenter nos demandes personnelles. Il nous rappelle que cette prière implique la confiance, la soumission et le pardon envers autrui. Jésus avait l'habitude de prier avant de prendre des décisions importantes. Il priait aussi pour exprimer la joie, la reconnaissance, l'intercession. Il nous a recommandé aussi de prier pour ne pas tomber en tentation. Et sur la croix, il prie encore de pardonner à ses bourreaux et il s'abandonne au Père. Sa prière montre que Dieu peut ne pas exaucer, mais il fortifie. En conclusion, je résumerai simplement ceci. Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner la prière. Il l'a vécue à chaque étape de sa vie, dans la joie comme dans l'agonie. Que son exemple nous encourage et nous fortifie dans notre vie de prière. Amen.